Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La surpopulation carcérale toujours d'actualité en Europe, les peines alternatives en hausse, mais la réinsertion à la peine, tableau très mitigé des prisons en Europe. On commencera tout de même cette émission par une initiative exemplaire, celle de la justice restaurative au Royaume-Uni. Des ateliers qui permettent aux détenus de prendre conscience de l'impact de ces crimes ou délits et de rencontrer des proches des victimes pour se reconstruire. Marie Billon, vous êtes à Londres, vous avez pu vous rendre dans un de ces ateliers au sud de la capitale, dans la prison de Wandsworth précisément. Racontez-nous.
Et oui, c'est assez rare hein, que la presse puisse entrer dans les prisons, mais l'association qui organise ces cours, Prison Fellowship, estime qu'il est important que le public sache ce qui se passe à l'intérieur pour aider les détenus à se réinsérer une fois leur peine purgée. Alors certains membres du public peuvent même assister à la dernière session en tant que représentants symboliques de la société prête à accueillir le criminel repenti, et c'est à cette sixième et ultime session que j'ai pu assister. Je laisse par contre Isabelle Lecé, volontaire à Wandsworth depuis 9 ans, expliquer les détails.
Donc le projet inclut à la fois la prise de conscience et la façon de pouvoir réparer. Un volet sur la conscientisation, prendre conscience des victimes des actes criminels ou délictueux, et un deuxième volet qui essaye de restaurer, réparer, soulager les blessures, réparer les torts, parce qu'il y aurait une sorte de cruauté à faire prendre conscience du mal commis et de ne pas donner les moyens de le réparer.
Alors concrètement, quand Isabelle arrive à Wandsworth, elle est accompagnée de 8 facilitateurs, des personnes qui seront en charge des ateliers, elle est tutrice, c'est-à-dire que c'est elle qui mène la session. Tous sont des volontaires. Lors de la première classe, Isabelle distribue des cahiers d'exercice.
Le cahier qui arrive, c'est un défi en fait. Et c'est comme ça que je le présente quand je les recrute. Je leur dis, écoutez, c'est un défi, mais en fait, ça vaut vraiment la peine de mettre par écrit des choses qui tournent dans votre tête, et finalement, ça vous force à penser. Ça va vous aider à mettre les choses clairement dans votre tête. Vous allez vous faire un plan clair du mal qui a été fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour le réparer. Et en fait, c'est comme ça qu'on essaie de réveiller leur empathie, en leur disant, mettez-vous à la place des victimes et qu'est-ce qu'elles ressentent, ces victimes. C'est des jeux de rôle, et par écrit, en fait.
La première page demande de donner des synonymes de réparer. Un peu plus loin, après avoir lu le récit d'un crime fictionnel, le détenu doit écrire qui sont les personnes impactées. Il est aussi invité à réfléchir sur comment la communauté, la ville ou les voisins de la victime ont pu être touchés ou traumatisés par le crime qui a été commis si près de chez eux. L'idée, c'est de montrer qu'on ne peut jamais complètement faire oublier le mal qu'on a fait.
Et pour aider à la prise de conscience, justement, il y a des victimes qui viennent aussi voir les détenus.
Oui, c'est à la troisième session. Ce n'est jamais la victime d'un des détenus qui est présente. Lynn Connolly et son époux Mike font partie de ces volontaires. En 2002, leur fils Paul a été tué lors d'une attaque à l'arme blanche. Ils collaborent à ces ateliers depuis 2006. Comme beaucoup, Lynn et Mike veulent que quelque chose de positif ressorte de la tragédie qu'ils ont vécue. Mais pas seulement, parce que la justice est rendue au nom du peuple britannique, pas au nom des victimes d'un crime ou de leurs proches. Ils se sentent donc souvent exclus par le système judiciaire. La justice restaurative offre par contre une participation active.
Lors du procès, nous avions écrit une impact letter, une lettre dans laquelle nous pouvons exprimer ce que nous ressentons. On ne sait pas si elle a été utilisée ou non. Nous étions les seuls à ne pas parler au tribunal. Nous étions exclus de ce qui se passait. Alors qu'ils parlaient tous de notre fils décédé, l'atelier nous a donné une voix.
Lynn et Mike, comme toutes les autres victimes, reviennent encore une fois pour la toute dernière séance, donc la sixième. C'est là que les détenus doivent se lever et dire à tout le monde ce qu'ils ont retiré de ce stage. C'est un petit discours, et pour Isabelle, c'est aussi l'occasion de voir s'ils s'engagent dans un projet concret.
Il faut reconnaître qu'il y a des échecs, il y a des gars qui vont faire semblant qu'ils ont bien compris, mais en réalité, ils sont pas du tout décidés à changer de vie. On leur fait bien prendre conscience du fait que quand on a dealé la drogue, on a été très riche, ça va plus être possible si on a un métier normal. Il y en a qui, non, ils veulent pas changer, quoi. C'est visible quand ils ont fait des actes vraiment visibles. C'est-à-dire que quand ils ont embarqué des études de marketing, là, on peut se dire que quand même, il va y avoir quelque chose. Ou d'autres choses. Oui, voilà, dis ça parce que c'est le genre de métier qui va rapporter peut-être autant que de dealer la drogue. Mais s'ils n'ont pas vraiment embarqué des vrais actes positifs Là, c'est vrai qu'on peut douter.
Mais alors Marie, est-ce qu'on sait si cela fonctionne ?
Alors cela fait 20 ans que cet atelier existe. 35 000 détenus ont participé à ces cours, selon Peter Holloway, le chef de Prison Fellowship, l'association qu'il a créée. Pas de statistiques sur les récidives, mais le sentiment que cela fonctionne.
We did a study a few years ago with Sheffield Hallam.
On a fait une étude avec la prison de Sheffield Hallam qui se concentrait sur l'attitude des détenus. Et on a pu clairement constater plus d'empathie envers les victimes. Un changement dans leur vision d'une vie criminelle. Ils ont moins l'impression que le crime paie et ils identifient plus les écueils qui accompagnent ce choix de vie.
Prison Fellowship est une association chrétienne, mais le programme n'a pas de connotation religieuse. Il est ouvert à tous, sauf aux délinquants sexuels. Ce n'est pas un choix de l'organisation, c'est le système carcéral qui impose cette restriction, précise Peter Holloway. La justice restaurative se développe en Europe, et notamment en France.
Merci Marie Billon, à très bientôt. Et en Allemagne, plusieurs Länder proposent aux détenus les plus fragiles qui risquent de replonger, de revenir en prison. Une détention volontaire surprenante pour aider à la réinsertion. Les explications depuis Berlin de Julien Méchaussy.
Reprendre le chemin volontairement de la prison après en être pourtant sorti ou y rester plus longtemps que la peine prononcée, le tout de son propre chef. Une mesure qui peut paraître ubuesque mais pourtant adoptée par plusieurs Länder à l'image de la Bavière qui a intégré cette possibilité dans sa législation. Une solution extrême pour les personnes qui jugent leur réinsertion en danger et qui vaut entre autres pour les mineurs, les délinquants sexuels ou même les détentions préventives. Seule condition, que le détenu ou l'ancien détenu en fasse lui-même la demande. Les coûts liés à cette incarcération volontaire sont même pris en charge par l'administration pénitentiaire et selon les mots du ministre bavarois de la Justice, cette législation fait pleinement partie du dispositif qui doit permettre de préparer au mieux le retour dans la société. Lorsqu'une personne n'arrive pas à trouver un logement, un emploi ou risque de consommer de nouveau des substances illicites, elle doit pouvoir retourner en prison et continuer à préparer sa réinsertion. Un scénario extrême qui ne concerne que quelques dizaines d'individus chaque année, mais qui est pourtant salué par les associations. Selon elle, un retour à la casse-prison permet notamment d'éviter à un détenu de renouer avec ses anciennes fréquentations et de travailler à ses côtés à sa réinsertion. Et c'est alors le détenu qui décide du jour de sa sortie de prison.
Bonjour Avmino.
Bonjour Frédéric.
Et dans le reste de l'Europe, il existe beaucoup de bonnes initiatives pour favoriser la réinsertion des prisonniers. Elles ont été listées en 2017 dans un rapport du Parlement européen.
Oui, avec notamment un programme de soutien financier aux proches des détenus qui viennent leur rendre visite, adopté en Angleterre et au Pays de Galles, ou encore la construction d'un espace de visite séparé pour membres de la famille en France. Et enfin, la mise en place de centres universitaires pénitentiaires en Italie et en Pologne. D'autres initiatives semblent également porter leurs fruits, comme l'aménagement d'une structure démocratique en prison par le biais d'un système de représentation des détenus censé améliorer le sens des responsabilités ou encore simplement l'installation d'un bureau de vote en prison, comme en Pologne, pour ne pas rompre le fil de la citoyenneté. Une initiative d'ailleurs copiée cette année en France lors des élections européennes.
Et puis le rapport souligne également le besoin d'individualiser au maximum le parcours de sortie du détenu, Eve, afin d'optimiser ses chances de non-récidive.
Alors même s'il n'existe pas de remède miracle pour promettre une réinsertion réussie à tous les détenus, il semblerait qu'un accompagnement personnalisé soit l'une des clés. Ainsi, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime listait récemment les éléments utiles précédant la sortie des détenus, des contacts avec l'extérieur renouvelés, des soins de santé physique et mentale, des traitements de la dépendance à la drogue, notamment des programmes pour aider les détenus à changer de comportement, par exemple apprendre à gérer leur agressivité, prévenir les rechutes ou encore encourager à la reprise du travail.
Plusieurs études permettent d'affirmer d'ailleurs que les peines alternatives sont plus efficaces du point de vue de la réinsertion.
Oui, c'est sans appel, les taux de récidive sont largement plus élevés dans les pays qui ont des taux d'emprisonnement très élevés, comme la France et l'Angleterre par exemple, et beaucoup moins dans les pays qui emprisonnent le moins en Europe, comme les Pays-Bas ou encore l'Allemagne.
Alors Eve, les peines alternatives à l'incarcération sont de plus en plus courantes en Europe, mais curieusement, leur mise en place ne résout pas les problèmes de surpopulation.
Et non, et c'est l'enseignement d'une enquête publiée cette année par le Conseil de l'Europe, une institution qui observe les droits de l'homme dans 47 pays membres, de l'Islande à l'Azerbaïdjan. Premier enseignement, dans la plupart des pays du Conseil de l'Europe, le taux de population en probation dépasse maintenant le taux de population carcérale. Donc en gros, il y a aujourd'hui plus de peines alternatives que de peines carcérales, d'emprisonnement. C'est en revanche l'inverse encore en Serbie, en Norvège, en Suisse, Bulgarie, Espagne, Azerbaïdjan et Russie. Mais fait surprenant, si ces peines alternatives ont augmenté de près de 12% ces deux dernières années, le nombre de personnes incarcérées n'a baissé lui que de 6,6%, soit deux fois moins. Ce ne sont donc pas des vases communicants.
Alors comment expliquer cela, Eve ?
Eh bien, il semblerait en réalité que les pays qui ont le plus recours à ces alternatives sont les mêmes que ceux qui envoient le plus de monde en prison. En gros, ces mesures probatoires que sont le bracelet électronique, la liberté conditionnelle ou les travaux d'intérêt général sont venues en partie s'additionner à l'incarcération. C'est en quelque sorte un effet pervers que l'on désigne par le terme d'élargissement du filet pénal. Et c'est ce qui se passe en Russie, en Turquie, mais aussi dans une moindre mesure en France.
Des pays qui ont d'ailleurs été régulièrement montrés du doigt en raison de leurs problèmes de surpopulation carcérale.
Oui, car c'est un fléau qui se retrouve finalement au centre de tous les problèmes. D'abord parce que les personnes souffrent d'un manque d'espace vital. Également parce que plus de détenus implique forcément moins de temps par détenu pour le personnel, donc moins de soins, moins d'attention, moins d'accompagnement et à terme plus de difficultés dans la réinsertion. Mais tout n'est pas immuable pour autant. L'Italie, par exemple, qui était un très mauvais élève, l'un des plus mauvais élèves de l'Union européenne, en 2013, avec de nombreuses condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, est aujourd'hui presque devenu un exemple avec moins de 5% des détenus purgeant des peines de moins d'un an, les autres bénéficiant de la mise en place de peines alternatives via le bracelet électronique et les travaux d'intérêt généraux notamment.
Merci Eve, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À Raguse, en Sicile, deux femmes ont monté une menuiserie pas comme les autres. Elles y ont embauché des employés en difficulté sociale, anciens détenus ou réfugiés. Un projet à la fois social et écologique que nous fait découvrir Cécile Debarge.
L'histoire de la petite menuiserie Reinhardt pour renaître artisan est un peu celle d'une utopie. À l'origine du projet, Elisa Giulino et Ilaria Lamacchia, l'une vient des Pouilles, l'autre de Sicile. Les deux femmes se rencontrent à Milan, où elles étudient l'architecture et commencent leur vie professionnelle, raconte Ilaria Lamacchia.
Lavoravo in uno studio a Milano per un miliardario.
Je travaillais dans un studio à Milan pour un milliardaire, mais ce n'était pas ce que je voulais faire dans la vie, être derrière un ordi. Je voulais plutôt unir au sein d'un même projet les relations humaines, le social et le travail manuel en ne se contentant pas de faire des graphiques et la protection de l'environnement.
Unir la progettualità, la manualità et la sostenibilità ambientale.
La petite entreprise sociale ne tarde pas à voir le jour. Dans l'entrée de l'entreprise, on peut voir aujourd'hui des marque-pages en bois, témoins de l'esprit maison. Ils sont vendus à 8 euros pièce et s'appellent Sauver des flammes, en référence aux énormes morceaux de bois de caroubier qui ont servi à leur confection et qui devaient initialement être brûlés.
Ce sont des bois qui racontent notre territoire. Ils racontent aussi leur transformation de rebut en objet de valeur. C'est un peu ça notre mission. Le fait de récupérer des personnes que la société considère comme des rebuts, et pour nous, ils retrouvent dignité et valeur.
Les deux entrepreneuses ont mis au cœur de leur projet la réinsertion de personnes en difficulté. Leur coopérative compte désormais trois associés, Ilaria, Elisa, mais aussi Patience, nigériane, venue en apprentissage au sein de la menuiserie en 2015, et la seule à avoir choisi de poursuivre dans cette voie.
Ensuite, de manière ponctuelle, on a de nombreuses personnes qui collaborent avec nous. Ce peut être des services civiques comme Ibrahim, migrant arrivé avec le couloir humanitaire, ou bien des personnes qui effectuent un travail d'intérêt général, une peine alternative à la prison. Elles restent avec nous tout le temps de la peine. Et puis il y a aussi des personnes handicapées, avec bien sûr un handicap compatible avec le travail en menuiserie.
La menuiserie n'est que rarement un choix ou une passion. Pour eux, peu importe. Pour les deux jeunes femmes, c'est surtout un moyen de retrouver une place au sein d'un groupe et un savoir-faire au fil des semaines, explique Elisa Giulino.
Le fait que ces gens puissent reproduire des objets semblables nous permet d'atteindre notre objectif humain et social. Notamment parce que le fait de répéter la même méthode de travail permet aux jeunes de devenir peu à peu autonomes dans leur travail et de retrouver une dignité.
Dans le fond de l'atelier, Ibrahim, 19 ans, lave les pinceaux à vernis. Cet Ivoirien effectue un service civique volontaire et est présent dans la coopérative de 9h à 13h du lundi au vendredi.
La plus grande difficulté, lorsque on te met un défi, on te donne les machines d'utiliser que tu n'as jamais utilisées, que tu n'as jamais imaginé que tu pouvais l'utiliser aujourd'hui, on te donne d'utiliser de la peur. C'est la peur d'abord de gâter, parce qu'ils ont eu confiance en toi.
La démarche des deux amis est donc sociale, mais aussi écologique. Pour se fournir en bois, elles sillonnent les déchetteries de la région, un geste qui leur demande pourtant un gros effort, explique Elisa Giulino.
Évidemment, le bois de récup est beaucoup plus difficile à traiter, mais aussi à stabiliser, car souvent il est mouillé ou bien gonflé, et donc ça demande des traitements plus compliqués.
En moyenne, et par rapport à la production d'une menuiserie normale, chaque pièce réalisée leur demande 2 à 3 fois plus de temps de travail. Lancée en 2015, le projet a évolué pour devenir 2 ans plus tard, en 2017, une coopérative. L'un des enjeux pour les années à venir est celui de l'équilibre financier de l'entreprise, ni tout à fait centre de réinsertion sociale, ni tout à fait menuiserie conventionnelle.
On est un peu hybride. La difficulté, c'est de faire comprendre aux gens qu'on propose une chaise comme le ferait un autre menuisier, sauf que derrière, on a une histoire. Ce qui explique que souvent, notre chaise coûte un peu plus cher.
Pour développer ses ventes, la menuiserie lancera bientôt une plateforme de vente en ligne.
Et en Roumanie, un des pires pays d'Europe en matière de surpopulation carcérale, l'État s'est désengagé des politiques de réinsertion. Ce sont donc les citoyens et les ONG qui s'en préoccupent. C'est le cas d'Ateliers sans frontières, au sud de Bucarest. Benjamin Ribou les a rencontrés.
Le taux de chômage a beau être au plus bas en Roumanie, aux alentours de 4%, les employeurs se montrent intraitables lorsqu'il s'agit de recruter un candidat qui a fait de la prison. Au sein de l'ONG Ateliere Fara Frontiere, qui emploie 6 anciens détenus, Gemma Kobzariou, conseillère en insertion, entend souvent la même histoire.
Pas plus tard qu'aujourd'hui, une personne qui venait de sortir de prison et qui était au chômage est venue nous trouver. Elle nous a raconté que lors d'un récent entretien d'embauche, l'employeur lui avait dit que s'il avait su qu'elle avait fait de la prison, il n'aurait même pas pris la peine de parler avec elle.
Outre un lieu de travail et un salaire, les anciens détenus bénéficient avec Ateliere Fara Frontiere d'un accompagnement avec l'espoir de trouver un emploi hors de l'atelier. La moitié d'entre eux y parviennent, c'est déjà un succès. En 10 ans d'existence, ce sont 200 personnes considérées comme vulnérables qui sont passées chez Ateliere Fara Frontiere, une ONG qui vient en aide aux laissés pour compte, sans aucun soutien de l'administration pénitentiaire roumaine. Raluca Auriagli, responsable du développement chez Ateliere Fara Frontiere.
Les assistants sociaux et les psychologues des prisons doivent stopper toute relation avec les détenus dès qu'ils sortent. Même chose pour nous qui essayons d'aller dans les prisons pour expliquer aux détenus qu'on peut les aider à leur sortie. La loi nous empêche d'approfondir notre travail tant qu'ils sont détenus. C'est pareil pour le personnel de prison. Une fois que le détenu sort, il n'y a plus de contact du tout. Du coup, la plupart du temps, ces personnes sortent en hiver habillées comme en été lorsqu'ils ont été arrêtés et leur seule solution est de récidiver. Ce qui explique que le taux de récidive en Roumanie soit si élevé, c'est inquiétant.
D'après les statistiques du Conseil de l'Europe, la Roumanie occupe la 2e place en Europe en termes de surpopulation carcérale. Pour ce qui est de la réinsertion professionnelle des anciens détenus, la route est longue. Pour preuve, il n'existe même pas de statistiques officielles.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, et sur les réseaux sociaux. À demain.